Ce qu'il faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
El pueblo unido jamás será vencido.
¡Vencedor!
El pueblo unido jamás será vencido.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Bonjour, vous êtes en compagnie de l'association Wakadji. Et aujourd'hui, c'est Waleo, le porte-parole de l'association. Au fait, Wakadji, vous vous en souvenez, ça signifie on a quelque chose à dire. Mais là, c'est pas nous qui avons quelque chose à dire. C'est Gino, Pauline, Colin, Leila, Eliana et Slimane, de l'atelier d'insertion La Prépa de Montpellier. En avril, ils ont accueilli Mélissa, Mathieu et Dani, trois Québécois que vous connaissez déjà sur Radio Clapas, pour une semaine de création radiophonique. Et ensemble, ils ont produit l'émission que nous allons vous faire écouter et qui s'intitule Changer. Nous sommes très fiers de vous faire entendre ce petit bijou de près d'une demi-heure qui regroupe des reportages passionnants, des témoignages émouvants et des réflexions profondes sur les différents changements dans nos existences. Alors bonne émission, au revoir et à la prochaine.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Hey, allô Pauline.
Salut Dani.
T'attends-tu d'aller au club à soir?
Hein? Qu'est-ce que tu me dis, là?
Je vais danser à soir.
Ah, tu vas en boîte. Tu sais qu'on n'est pas au Québec, là. Il faudrait que tu changes ton vocabulaire.
OK, c'est vrai que j'ai changé de pays. Maintenant, faut que j'adapte mon langage.
Eh oui, quelquefois, il faut changer de vocabulaire, de culture, voire même changer tout court. Bref, vous avez compris. Le sujet de notre émission est le changement.
Nous sommes un amalgame bizarre de jeunes Québécois en stage de 3 semaines en France et de jeunes Français en formation à l'atelier La Prépa de Montpellier.
Allez, bonne écoute. Et peut-être que tout à l'heure, vous ne serez plus tout à fait les mêmes. C'est comme si mon cerveau était séparé en deux. Mon envie de changer d'un côté et mes incapacités à le faire de l'autre. Avant, dans ma famille, on était tous réunis. Mais maintenant, on est tous dans des départements différents. Comme si c'était fait exprès. Il y en a même pour qui les murs n'ont pas de porte. Mais même avant ces séparations, j'ai toujours eu l'impression que je pensais à eux avant de penser à moi. C'était ce que me disaient tous mes éducateurs, mais pour moi c'était normal. Je le faisais sans m'en rendre compte. Aujourd'hui, je suis sûre que je pourrais pas m'en sortir si je continue à fonctionner comme ça. Il faut que j'arrive à penser à moi, mais c'est pas facile de changer d'habitude. C'est comme si, du jour au lendemain, on devait réapprendre à vivre. Si j'arrive à changer et à faire les choses honnêtement, j'aurai un studio à inviter d'ici quelques mois. Mais je suis toujours attirée vers le monde d'avant. Parce que c'est pas facile de changer, même avec l'envie. Il me faudra du temps. Il faut qu'on m'aide à me ranger. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. En tout cas, je suis sûre d'une chose, j'y arriverai pas toute seule. C'est un truc de fou. Il faut que j'arrive à penser à moi, plus qu'à ma famille. Mais pour y arriver, j'ai l'impression que j'ai besoin d'eux.
J'ai vécu un changement important dans ma vie. Il y a 6 ans, j'ai quitté mon pays d'origine, le Burundi, pour m'installer au Canada afin d'y avoir une vie meilleure. En effet, mon pays est déchiré par une guerre depuis plus de 15 ans. Et depuis 6 ans, je ressens chaque jour comme une bénédiction. Vivre dans un pays où règne la paix, chose que l'on considère souvent comme acquise, c'est un privilège. Par exemple, je me rappelle avoir assisté pour la première fois au festival Le Feu d'Artifice. J'ai ressenti la même frayeur que lors des détonations d'armes de là-bas. Puis, la seconde d'après, je me suis reprise en me disant que tout irait bien, que je n'avais rien à craindre. Ce fut une nouveauté d'associer ce bruit autrefois terrifiant à quelque chose de beau. Je me souviens aussi avoir réappris à dormir sans le souci d'être réveillé par des fusillades ou être préparé au pire. Aujourd'hui, après être retourné voir ma famille, ce qui fut un bonheur immense, j'aimerais pouvoir vous dire que le changement était positif sur toute la ligne. Mais ce n'est pas le cas. Pendant mon séjour, j'ai dû à nouveau faire face à ce sentiment d'insécurité, à la peur. J'ai aussi ressenti une certaine culpabilité vis-à-vis de tous ceux qui sont restés au pays. Parce que moi, au moins j'avais pu avoir un certain répit. Enfin, tout cela m'aide à forger ma personnalité. Ça me donne de l'espoir et du courage pour trouver du travail où, je l'espère, j'arriverai à provoquer du changement positif dans la vie des gens.
Bonjour, et bien avec nous il y a Michel Saïman. En quoi consiste votre travail ?
Donc, je dirige avec Myriam un centre de bilan de compétences et nous travaillons donc sur le projet professionnel et donc sur le changement professionnel. Ce sont des personnes qui sont avant tout salariées d'entreprise et qui décident à un moment donné de travailler un peu sur leur avenir professionnel. Soit parce qu'elles veulent changer complètement de métier, soit parce qu'elles veulent évoluer dans leur entreprise, mais elles ne savent pas vraiment à quel poste. Généralement, c'est ces deux profils.
Et qu'est-ce qu'un bilan de compétences exactement ?
Un bilan de compétences, c'est pas faire l'inventaire de ses compétences, c'est pas évaluer des compétences. C'est pour moi une réflexion accompagnée sur un projet professionnel. On fait un point sur son passé, sur ses motivations, et on fait l'inventaire aussi de ses compétences, bien sûr, de ce qu'on sait faire, pour savoir tous les atouts qu'on a pour trouver un poste. Donc un bilan de compétences, c'est le terme. C'est une réflexion accompagnée sur un projet professionnel, sur un changement.
Comment faites-vous si vous pensez que les projets d'un client sont irréalistes ?
Quelquefois, il y a des secteurs où je leur dis, écoutez, vraiment, l'édition, vous allez vous planter, c'est pas la peine, parce que c'est évident, quoi. Mais généralement encore, quand elles font leurs enquêtes, elles ont l'information, en fait. On leur dit, ben non, c'est un peu bouché, il n'y a pas tellement de demandes, ou c'est saturé, il n'y a plus de boulot. D'emblée, on revoit sa réflexion, quoi. On laisse tomber et ces projets irréalisables, ils s'en rendent compte. Rarement, je dis laissez tomber, vous n'avez pas de chance. Ou ils viennent des fois, est-ce que je suis capable de faire ça ? Voilà. Alors, la question, c'est pas est-ce que je suis capable de faire ça, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça d'abord. Et ensuite, on va voir s'il y a des débouchés. Mais elles s'en rendent compte toutes seules. Franchement, j'ai jamais dissuadé. Je conseille, bien sûr, on conseille. Oui, peut-être que cette fonction-là de gestion, ça va pas vous convenir parce que vous êtes derrière un bureau, les chiffres, c'est pas votre affaire. Éventuellement, on peut le dire, hein, parce qu'elles l'ont déjà dit d'une façon ou d'une autre avant, en fait. C'est en écoutant qu'on s'en rend compte. Alors, on reformule derrière, mais c'est eux qui le disent aussi, souvent. Elles se connaissent mieux que je ne les connais, hein. Mais elles ne savent pas tout ce qu'elles connaissent d'elles, en fait.
Il y a 3 ans, j'étais dans un marasme mental. J'étais complètement perdu dans un excès de marijuana au point où le degré d'introspection était pathologique. Je n'avais pas d'amis, j'étais complètement seul et personne ne pouvait me comprendre. Je n'avais personne à qui je pouvais me confier. J'ai rencontré Marie-Lou et elle est devenue ma conseillère en emploi. Lentement mais sûrement, j'ai écouté ses conseils et je me suis sorti d'un état qui ressemblait presque à l'autisme. Je lui ai fait confiance et elle m'a permis de m'épanouir. Grâce à elle, je suis présentement ici et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Marie-Lou m'a aidé avec beaucoup de douceur à me découvrir moi-même grâce à de bons conseils et, je dois l'admettre, une extrême patience, presque surhumaine. Elle m'a donné comme conseil de ne pas m'en faire avec mes opinions, de trouver des moyens pour me dégêner, comme on le dit si bien au Québec, et de prendre confiance en moi. Elle m'a ainsi permis de pouvoir m'épanouir car il y a 3 ans, je n'aurais jamais pu venir en France et rencontrer un autre changement. Je viens d'arriver et mon opinion peut sembler naïve étant donné mon enthousiasme, mais j'ai la drôle d'impression que les gens en France sont plus polis, plus respectueux, plus enthousiastes et plus cultivés que la moyenne des Québécois. L'analyse et l'introspection sont bien vues, la critique aussi. On est plus complaisant au Québec. Le changement culturel est stimulant, mais le changement personnel que j'accomplis est beaucoup plus gratifiant. Je tiens personnellement à remercier Marie-Lou, car elle m'a permis de m'émanciper, de changer. Et c'est cette émancipation qui m'a permis de m'épanouir dans un autre pays.
En septembre dernier, quand j'ai retrouvé mon lycée, mes amis, mes profs, ça n'a pas été une rentrée comme les autres. Au Bahut, tout le monde avait appris pendant l'été mon lourd passé. Mes histoires faisaient peur, elles dérangeaient. Je n'ai pas réussi à me fondre dans la masse, à oublier mon agression. J'ai perdu confiance en moi, j'ai étouffé. Ça m'a donné envie de tout laisser tomber. J'ai arrêté les cours. Mon comportement a changé, mes parents ne me reconnaissaient plus. Je suis devenue violente et je me suis complètement laissée aller. J'ai rempli mon sac, pris ma chaîne et un peu d'argent, je suis partie. Sur Montpellier, personne ne me connaissait. Je me suis retrouvée, enfin, seule. Quel soulagement. C'était en janvier. Les nuits étaient froides et j'avais faim. J'ai marché avec Dicky sans savoir où j'allais. Et j'ai entendu un « Hey, ça te dit une bière ?» C'était Yo, un gars de la rue. Je me suis assise avec lui et il a commencé à me poser des tas de questions. Puis il m'a présenté ses amis, Coco, Simon, Winnie, Taz. Je me suis tout de suite sentie bien avec eux. Ce soir-là, c'était mon anniversaire. Yo et ses amis ont tout préparé pour fêter mes 17 ans. Cela faisait à peine 2 heures que je les connaissais, et pourtant, ils ont tout fait pour moi ce soir-là. C'est fou de constater que ce sont parfois ceux qui n'ont rien qui vous donnent le plus. Depuis ce jour, je ne les ai plus quittés. Ces gens-là ont essayé de me montrer un aspect positif de la rue. La solidarité qu'il peut y avoir, nous étions comme une famille. Mais il y a aussi les mauvais aspects. La drogue, la violence, une mauvaise hygiène de vie. Grâce à eux, j'ai retrouvé confiance en moi. J'ai appris à me foutre du regard des autres. J'ai aussi appris à me méfier des gens, à m'imposer. Mais j'ai aussi tourné la page sur ce qui m'était arrivé plus petite. Grâce à eux, j'ai appris, j'ai évolué, j'ai changé.
Moi, je changerai bien de pays.
Je crois bien qu'on va bientôt changer de président.
Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as changé de coiffure ou quoi ?
Qui veut changer de vie ? Qui veut changer de vie ?
Il y a une chose que je changerais pour rien au monde. C'est mon accent.
Moi, si je pouvais, je changerais le monde.
En tout cas, moi, je changerais bien de femme.
C'est plutôt les hommes qui devraient changer.
Moi, je changerais bien de lunettes.
Et moi, je changerais bien de visage aujourd'hui.
Changer de visage, ça, c'est une piste intéressante. Justement, on a accueilli dans les studios le docteur Reynaud, spécialiste reconnu dans le monde de la chirurgie esthétique. Il a pris le temps de répondre à nos questions.
Alors, on accueille avec nous Monsieur Reynaud. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Depuis quand ça existe, la chirurgie esthétique ?
Bon, depuis très 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 longtemps. Ça fait plus d'un siècle. Et notamment, lors de la guerre de 1914-1918, les blessés de la face ont bénéficié de cette chirurgie pour leur donner un visage humain et leur permettre de revenir se réinsérer dans la vie de tous les jours.
Quel type d'opération avez-vous pratiqué le plus ?
Je pense que c'est les interventions qui sont destinées à modifier la poitrine des jeunes femmes. Soit parce qu'elles souffrent de ne pas avoir suffisamment de poitrine, soit, et c'est peut-être encore plus fréquent, les jeunes femmes et les femmes plus âgées qui ont une poitrine très lourde, très grosse, qui les empêche de s'habiller normalement, qui leur cause des douleurs dans le dos. Ouais. Donc elle est amenée à reconstruire des seins qui sont trop volumineux pour leur donner un volume normal.
Quelles sont les motivations des gens qui se font opérer ?
Eh bien, en général, ça procède d'une souffrance. Qu'on le veuille ou non, c'est toujours une souffrance. Soit physique à cause des douleurs, comme je vous l'ai dit, pour les seins trop lourds, soit une souffrance psychologique, morale, parce que on trouve, lorsqu'on se regarde dans le...
La dépression.
Ça peut arriver, oui, mais il ne faut pas penser que la chirurgie esthétique va guérir une dépression non plus, parce qu'il y a d'autres facteurs. Mais disons qu'une jeune fille qui, se regardant dans la glace, trouve que son nez est un peu bossu, par exemple, ou un peu dévié, elle peut avoir une image un peu négative d'elle-même, et à ce moment-là, ça se répercute sur son comportement et sur les relations qu'elle peut avoir avec les autres. Et puis, bon, vous savez toutes et tous que la mode est telle qu'il y a des images qu'on pourrait appeler des icônes de beauté sur les magazines. Et il y a beaucoup de jeunes filles ou de jeunes gens qui souhaiteraient ressembler à leurs idoles cinématographiques ou médiatiques.
Comment prépare-t-on un patient au changement physique ?
Alors, d'abord, il faut beaucoup écouter, savoir quelles sont ses vraies motivations. On regarde si ce n'est pas une fantaisie non plus, parce qu'il y a des patientes qui arrivent, ça arrive souvent chez les filles, mais aussi chez les garçons quand même, qui arrivent en consultation en disant, voilà, mon nez ne me plaît pas. Et puis quand on l'examine, on s'aperçoit que le nez, il est normal, il n'est pas tordu, il n'est pas bossu, il n'est pas gros, il n'est pas petit, il semble normal. Là, il faut se méfier, parce que ça peut cacher un désordre psychologique dangereux d'opérer, parce que ça peut l'aggraver.
Et il y a des psychologues aussi qui rencontrent des patients ?
Je pense que si on doit confier un patient au psychologue ou au psychiatre, c'est que déjà, on a décidé que l'intervention n'était pas bienvenue pour lui et qu'il faut l'aider autrement. Voilà.
D'accord. Et vous, vous n'avez jamais eu une idée de vous faire une chirurgie ou quoi ?
Ben, je vais vous dire, jusqu'à présent, je n'aurais pas eu le temps parce que je travaillais. Là, actuellement, je suis à la retraite depuis 2 mois, donc je pourrais éventuellement, c'est peut-être quelque chose qui va venir, je ne sais pas. Mais sinon, pourquoi pas, oui.
Ben, Monsieur Renaud, vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. C'était très agréable de parler avec vous.
Je m'appelle Danny. J'ai commencé à parler à l'âge de 7 ans. Je suis né prématurément à Montréal, Canada, 3 mois d'avance. J'étais très malade quand j'étais bébé. Mes médecins ont découvert que j'étais sourd et muet. Entre ma naissance et 6 ans, j'ai subi 5 opérations aux oreilles. J'avais beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. Cette période était très difficile. Je mangeais peu. Les jeunes riaient de moi. J'avais de la difficulté à faire des amis. À 7 ans, grâce à mes nombreuses opérations, à la médecine et à ma détermination, j'ai pu apprendre à parler davantage. Auparavant, je parlais avec le langage des mains. Inutile de dire à quel point cela a été un changement immense dans ma vie. Je pouvais exprimer ce que je voulais dire, ce qui a facilité la rencontre de nouveaux amis. J'ai aussi débuté l'école et j'ai surtout commencé à avoir confiance en moi. Aujourd'hui, sans les opérations et sans les médecins, ma vie serait bien différente, je crois. Peut-être je vivrais de façon plus isolée. Bref, ce changement était important dans ma vie. Et sans lui, peut-être je ne parlerais pas dans un micro français aujourd'hui.
Dans certains quartiers, les garçons, quand ils te voient en jupe, ils vont venir te côtoyer en pensant que tu es une fille facile. Moi, je suis pas d'accord. Je changerai jamais de style ou d'habit par rapport au regard des autres. Je me mets en jupe si j'ai envie. J'ai rien à prouver à personne. Les seuls qui peuvent me juger, c'est ma famille. Pour moi, c'est important de pas m'habiller en fonction de ce que pensent les gens. J'aime bien être féminine et je marche toujours la tête haute. Je suis fière de ce que je suis et j'ai pas honte d'être une fille. Ça m'arrive souvent de m'enfader avec les gars de mon quartier parce que je supporte pas qu'on me manque de respect. Je leur parle de leur sœur, extrait pour qu'ils se rendent compte de ce que ça fait aux filles de se faire traiter comme ça. Et les garçons, redescendez tous sur terre. Au lieu d'insulter les filles, allez parler à vos sœurs pour arriver à les comprendre. Et vous les filles, ne vous laissez pas faire. Ne changez rien, restez vous-même.
Pour découvrir un autre type de changement un peu hors du commun, on s'est déplacé jusqu'au lac du Salagou. On a rencontré sur leur terrasse, avec vue sur le lac, Nicole et Camille, qui ont accepté de témoigner avec sincérité sur le changement d'identité sexuelle.
Les gens sont-ils compréhensifs face à votre choix de changer de sexe?
D'une manière générale, les gens ont été assez accueillants par rapport à ce que je leur ai exprimé. Mais c'est vrai aussi que d'une manière générale, j'ai pris beaucoup de précautions pour exprimer les choses. C'est-à-dire que très souvent, après quelques expériences désastreuses, je me suis rendu compte qu'il valait mieux commencer par parler avant de montrer.
Comment vous êtes-vous rendu compte que vous étiez une femme? Dans un corps d'homme.
Là aussi, c'est difficile de synthétiser, de répondre en quelques mots. Il y a, Je ne pense pas qu'il y ait une prise de conscience comme un déclic. Hein, à un moment donné, hop, on passe, on appuie sur l'interrupteur, on switch et on passe de homme à femme dans la tête, etc. Non, ça a été tout un ensemble de choses, tout un état, même pas de circonstances, je dirais plus un état psychique qui a évolué avec le temps, qui a commencé pour moi très très jeune, et souvent dans les questions de transidentité, ça commence très jeune, avec des rêves, avec des sensations de malaise social, c'est-à-dire mal dans ma peau avec les autres gens, et puis progressivement, ben, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui ne correspondaient pas à ce qu'on attendait de moi. Et puis voilà, petit à petit, par petites touches, en fait, les choses se précisent. Et puis, il y a un moment donné, par contre, où il y a un déclic qui, chez moi, s'est fait assez tard parce que, en fait, vous savez qu'on a tous les êtres humains ont besoin de modèles pour s'identifier, hein, notamment les enfants en période de croissance, etc. Et quand les modèles ne correspondent pas, on cherche, on ne trouve pas à s'identifier. Quand, en plus, on s'aperçoit très vite que ce qu'on vit, ce qu'on ressent intérieurement, n'est pas forcément du socialement correct, ben on va avoir tendance à le cacher et à pas le dire. Et donc, voilà, trouver le moment où on peut enfin s'identifier et dire « Ah ben oui, moi c'est comme ça, c'est comme cette personne ben ». Pour moi, ça a été très tard et ça a été grâce à Internet, dans les débuts d'Internet.
Est-ce que pour vous, c'est important d'être considéré comme une femme par rapport à la loi ?
Oui, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et le jour où j'ai obtenu mon changement d'état civil, ce qui en France est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, etc., etc., pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'important. Oui.
Pour vous, qu'est-ce qui a été le plus dur dans tout le processus, que ce soit intérieurement, moralement et même physiquement, tous les changements que vous avez eu à subir ?
Pour moi, ce qui a été le plus dur, c'était de vivre ce changement qui à la fois me rapprochait de moi-même et m'éloignait de la personne que j'aimais le plus au monde et que j'aime toujours le plus au monde, qui est en face là.
Ils sont mariés ?
Nous l'étions. Oui. Mais merci beaucoup.
Votre femme, comment a-t-elle réagi ? Quand...
Peut-être qu'elle peut le dire elle-même. Tu veux dire toi-même ? Comment tu as réagi ?
Comment j'ai réagi ? Par étapes, en fait, puisqu'au début, je pensais que c'était simplement du travestissement, quelque chose de l'ordre du fantasme, en fait. Et en fait, quand je me suis rendu compte de l'évolution que ça prenait, ça a été une remise en question générale de moi-même. Bon, de notre couple, c'est vrai, mais de moi-même aussi, et des fondements même de ma personnalité, et de mon rapport à la féminité, et j'en passe, et des meilleurs. Et après, ce qui a sauvé, ce qui a évité peut-être plus de difficultés, c'est qu'on est quand même resté toujours en dialogue. On est passé par des étapes bigarrées, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, mais on est toujours resté en dialogue, en essayant au moins de comprendre l'autre, avec pour base, je le répéterai jamais assez, l'amour.
Est-ce que vous êtes toujours mariée ?
Selon la loi française, on peut pas marier deux femmes ensemble, mais nous, notre mariage, il est antérieur. Alors c'est une espèce de flou artistique, je vais dire. On est hors norme pour le moment.
En fait, parler du changement d'identité, comme vous parliez tout à l'heure, de façon très généreuse, je trouve. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour les gens vont arrêter de vous parler de ce changement qui est arrivé dans votre vie, puis qui vont plutôt dire, bon, tu sais, vous êtes madame, puis on vous posera plus de questions sur le avant, puis sur le changement, pour dire vraiment, ben, je suis ce que je suis, puis voilà, point final.
Alors, je suis ce que je suis, c'est une phrase qui est très très importante et qui, effectivement, moi, m'a permis à un moment donné de franchir un cap et d'être enfin à l'aise. Parce que pendant tout le début de cette période de transition, j'étais sans arrêt en porte-à-faux, en me disant « mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» En plus, déjà avant, c'était pas terrible, mais alors maintenant, etc., etc. Donc, je suis ce que je suis, ça a été, à un moment donné, ça a été mon moteur pour finalement trouver ma place et m'y trouver bien.
Merci beaucoup.
Merci.
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 Merci à vous d'être venu d'aussi loin pour quelques-uns d'entre vous. Je suppose que vous n'êtes pas venu du Québec exprès pour me rencontrer, mais ça fait rien, ça fait plaisir quand même de vous avoir reçu.
J'ai fait une rencontre que tout le monde peut faire dans sa vie, une rencontre amoureuse. Tout le monde voit de quoi je parle, le coup de foudre, le vrai. L'amour, c'est ce qui peut nous arriver de mieux dans la vie. Il n'y a qu'à demander aux personnes âgées qui sont mariées depuis 50 ans, voire plus. Et oui, en amour, on est capable de tout. Mais l'amour, c'est pas tout beau, tout rose. Quand certains iraient jusqu'au bout du monde ou feraient des enfants, moi, j'ai suivi mon copain pendant des cambriolages. Si, si, je vous assure. Rentrer dans ce monde a complètement changé ma vie. Le stress, la peur d'être interpellée, l'œil sur tout le monde constamment, les mensonges à sa famille. Je suis rentrée dans un milieu qui n'était pas le mien. Quand on dit que l'amour rend fou ou que l'amour rend aveugle, je peux vous dire que j'en ai fait les frais. Parce que ma vie a changé une deuxième fois lors de l'incarcération de mon copain. La séparation a été brutale. Je n'ai jamais pu lui reparler depuis. Aujourd'hui, il n'est plus là depuis 2 mois, mais j'ai décidé de l'attendre tout en pensant à moi. Pour trouver ma voie professionnelle, faire quelques petits boulots, prendre un appartement. Ce que j'espère à sa sortie, c'est le sortir de ce monde qui nous a séparés, l'emmener dans le mien, où l'amour ne nous détruira plus.
La famille, elle peut te faire changer. C'est pas tout le monde qui a une famille. Moi, j'en ai une. Elle m'aide beaucoup. J'ai toujours su que le regard de ma famille compte beaucoup pour moi. Mais ce n'est qu'à 13 ans que j'en ai pris conscience. Mes frères et mon père, ils m'ont donné beaucoup de conseils. Par exemple, quand j'étais petit, je me bagarrais souvent avec mes cousins. Ils me disaient, on ne doit pas se battre. Et je les écoutais. Maintenant, je suis plus grand, plus mature. J'ai compris que ça ne se fait pas, tout simplement. J'ai souvent écouté les conseils de ma famille. Mais je pense aussi que c'est moi qui choisis. Par exemple, pour aller à mon stage, mon père m'a indiqué un chemin. Une fois là-bas, j'ai décidé de prendre une autre route qui me paraissait plus directe. Aujourd'hui, avec les conseils de ma famille, c'est moi qui décide si je change ou pas. Mais malheureusement, il y a des changements qui nous tombent au-dessus. Mais même là, je pense qu'on a encore la liberté de choisir comment on va vivre avec ce changement.
Et voilà, on espère que cette émission vous aura fait réfléchir un peu. En tout cas, nous, après une semaine de travail, on a changé notre regard.
On remercie Dany, Mathieu, Mélissa et Marie-Lou, les Québécois qui nous ont accompagnés cette semaine.
Nous, on remercie Colline, Eliana, Gino, Leila, Pauline, Slimane, mais aussi Christelle, Cindy, Jean-Jacques et Maëlle, qui nous ont accueillis dans les studios de l'atelier d'insertion de la PJJ, la prépa à Montpellier.
Merci à l'opération Placement Jeunesse de Montréal et à Logique Office Jeunesse International du Québec.
Merci à l'association Waikazi. On a quelque chose à dire pour avoir permis cet échange international.
On salue chaleureusement Camille, Nicole, Lionel Scotto, Michel Seyman d'Évoluance et le Dr Reynaud pour les interviews qu'ils nous ont accordées.
Et enfin, merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Ah oui, il fallait qu'on vous dise, les prénoms ont peut-être été changés.
Et au fait, si vous en avez vraiment envie, n'oubliez pas de vous donner les moyens de changer.
Au revoir et à bientôt !